France Inter.
Bienvenue à tous à la une de ce 13h. Mais jusqu'où veut aller la Russie qui multiplie les incursions de drones sur le flanc est de l'Europe? Quelle riposte d'ailleurs l'Europe doit-elle envisager? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, le général Vincent Desportes. L'actualité politique en France avec le Rassemblement National qui va tenir meeting cet après-midi à Bordeaux. Le RN exige la rupture ou bien ce sera la censure. À leur tour, les agriculteurs mettent la pression sur le Premier ministre. La FNSEA appelle à une grande journée d'action, ce sera le jeudi 25 septembre. Le rugby, le coq, va-t-il conserver son avantage sur le trèfle dans une heure? Quart de finale de la Coupe du Monde féminine de rugby, les Françaises face aux Irlandaises pour une place dans le dernier quart. Et nous rejoindrons Fanny Lechevestrier en direct en Angleterre. Dans ce journal également, le CNRS qui ouvre ses portes aux visiteurs pour mieux faire connaître l'intérêt de la science. Et des adultes en quête d'apaisement, ils se filment avec des tétines dans la bouche, c'est tendance. Mais les dentistes redoutent pas mal de dégâts. Le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, encore un peu de grisaille cet après-midi.
Oui, et ça sur les trois quarts du pays. Pour le quart restant, ce sera du soleil et on le retrouvera sur les régions les plus au sud.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Mais que cherche donc la Russie en multipliant les provocations sur la partie orientale de l'Europe? Il y a 5 jours, 19 drones russes ont survolé la Pologne. Et la nuit dernière, à son tour, la Roumanie a vu un appareil sans pilote violer son espace aérien, appareil attribué, là encore, aux Russes. L'armée roumaine a immédiatement déployé 2 avions de chasse F-16 pour surveiller l'appareil jusqu'à sa disparition hors de portée des radars. Bonjour Virginie Pirelon.
Bonjour Eric.
Rédaction internationale de Radio France. Il faut dire que cette région frontalière du delta du Danube, proche de l'Ukraine, vous la connaissez bien, Virginie, pour vous y être rendue en reportage. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cette zone est visée en Roumanie, mais jusqu'ici, elle subissait un peu en silence.
Oui, les incursions de drones russes et donc parfois des explosions non loin des habitations côté roumain, en réalité, sont loin d'être une nouveauté. Pourquoi? Eh bien parce que c'est par là, le long du Danube, que sont notamment situés les ports d'exportation de blé ukrainien, stratégique pour l'économie de Kiev, et donc particulièrement visé par la Russie. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas. Il faut bien que les armes fournies par les alliés européens transitent quelque part.
Et les habitants que vous avez rencontrés sur place ne vous ont pas caché qu'ils vivaient dans la peur.
Oui, près des villages de Plaourou et de Kiliaveke, où je me suis rendue au printemps dernier, là où le drone russe a été repéré hier par les autorités roumaines. C'est ce que m'ont dit effectivement les habitants, en tout cas ceux qui restent, car beaucoup de familles sont parties depuis février 2022. Un pêcheur qui vit à seulement 200 mètres du port céréalier ukrainien d'Ismaïl, derrière sa maison de l'autre côté du Danube, m'a même donné comme preuve des fragments de drones Shahed.
Et je les ai vus ce matin.
Je les ai montrés. Je les ai mis près de mon bureau. En une seule nuit, en juillet 2024, la Russie avait lancé 38 drones sur le port, dont 3 avaient disparu côté roumain. Mais les autorités roumaines de l'époque, ça a changé depuis, demandaient aux habitants comme aux élus locaux de se faire discrets, redoutant les conséquences. On le voit, après l'incursion de drones russes en Pologne cette semaine, un cap a été franchi. Et au fond, la nouveauté, c'est que la Roumanie désormais communique sur le sujet et envoie 2 avions de combat F-16, comme ça a été le cas hier, pour surveiller la situation.
Eh bien, merci de ce témoignage, Virginie Pironon. Et bonjour, général Vincent Desportes.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, ancien directeur de l'école de guerre. Mais que cherche précisément la Russie en violant ainsi l'espace européen?
Alors, on ne peut pas écarter la thèse selon laquelle ce serait une extension involontaire de la guerre en Ukraine. Mais vraisemblablement, c'est plus que ça. Que veut faire la Russie pour l'instant? C'est tester l'OTAN, tester ses capacités militaires et tester sa capacité de réaction, sa cohésion, etc. En termes de réaction, de cohésion, l'OTAN a fait face. L'article 4 a été demandé par la Pologne. Les avions se sont lancés dans la manœuvre d'arrêt des drones. Mais en termes de capacité, cette incursion a montré à la Russie que, hélas, pour l'instant, l'OTAN n'était pas vraiment équipée pour faire face à une incursion massive de drones. Autant l'Ukraine a vraiment un arsenal de drones et de mitrailleuses qui permet d'arrêter les drones, autant l'OTAN ne l'est pas. Eh bien, moi, je pense que la Russie ne se lance pas de cette manière-là dans la guerre, mais nous teste, regarde ce que nous savons faire pour en tirer parti pour une éventuelle attaque. Ça
Elle
fait des années
teste
maintenant, depuis le début.
Elle nous teste, dites-vous, jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller avec ses drones pour tester notre seuil de tolérance ?
Eh bien, vous savez, probablement, il ne le refera pas, il fera autre chose. Vous savez que le jeu du président Poutine va être évidemment d'avoir des petites manœuvres pour voir ce qu'on fait, comment on peut réagir. Là, il a essayé les drones, il peut faire d'autres incursions avec d'autres moyens, par exemple en Lituanie ou en Lettonie, ou éventuellement à côté de la Moldavie. Petit à petit, il va nous tester. Il teste notre volonté de résistance, il teste aussi notre cohésion. Quand je parle de cohésion, c'est de cohésion des pays européens de l'OTAN et surtout du lien transatlantique dont il a bien compris qu'il était faible, eh bien, il cherche à pousser ses avantages. On le dit depuis des années, il est tout à fait vraisemblable que le président Poutine, après qu'il ait arrêté d'une manière ou d'une autre la guerre en Ukraine, cherche à pousser ses avantages vers les pays de l'OTAN. L'OTAN n'est pas vraiment prête à cela. C'est pour ça qu'il est temps que l'OTAN et les pays européens de l'OTAN montrent leur détermination, et en particulier en se réarmant et en étant capables d'arrêter physiquement la menace russe.
Eh bien justement, Général Desportes, vous faites partie d'un collectif d'experts, militaires notamment, qui signe une tribune dans le journal Le Monde où vous appelez l'Europe à ne pas se contenter d'une stratégie défensive contre l'incursion de drones russes. Quelle autre stratégie l'Europe devrait-elle mettre en place selon vous ?
Eh bien, vous savez, une stratégie, c'est forcément positif. Et ce qui est terrible depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est qu'au fond, l'Europe n'a jamais eu véritablement de stratégie, parce que les pays n'ont jamais réussi à se mettre véritablement d'accord sur un objectif commun qui est la base même d'une conception stratégique. Et donc, aujourd'hui, ça fait 3 ans que l'Europe est en réaction et non pas en proaction. Et que c'est Poutine qui fait et nous, on réagit. Eh bien, il va falloir changer la donne et prendre l'initiative et prendre des mesures pour que ce soit Poutine qui soit poussé à la réaction et plus nous. Et donc, cette initiative Sky Shield, qui correspond complètement au droit international, changerait complètement la donne et montrerait enfin concrètement que les Européens ont une véritable détermination pour arrêter les massacres odieux que la Russie poursuit en Ukraine.
Ce que vous appelez le projet Skyfield, c'est d'aller intercepter dans le ciel ukrainien, d'intercepter les drones là-bas, avant qu'ils ne violent d'autres frontières européennes. Ça impliquerait la mobilisation de combien d'appareils alliés ?
Alors, le chiffre exact, je ne peux pas vous le donner, mais plusieurs dizaines, évidemment, d'appareils alliés, qui seraient des appareils de chasse, des chasseurs, mais aussi des appareils de type AWACS, capables d'exercer le contrôle aérien du ciel ukrainien, de manière à savoir quels sont les drones rentrants, qu'est-ce qui se passe dans cet espace aérien, de manière à pouvoir déclencher les sorties des avions nécessaires à la défense du sol ukrainien.
Merci.
Aujourd'hui, si vous voulez, l'Europe est complètement passive, regarde les Ukrainiens mourir sous les coups russes. Il faut absolument que l'Ukraine fasse que l'Europe fasse quelque chose et que enfin nous faisions cette opération Sky Shield qui est demandée depuis maintenant des années.
Merci de ces précisions, général Vincent Desportes, essayiste et donc ancien directeur de l'école de guerre. C'était il y a 5 jours au Qatar. Israël menait une opération militaire visant plusieurs hauts responsables du Hamas. Ces frappes ont semé un vent de panique dans la région. Et bien aujourd'hui et demain, Doha accueille un sommet arabo-islamique. Les dirigeants de la région vont s'accorder sur une riposte commune à Doha. Notre correspondante Marie-Pierre Véraud.
Iront-ils au-delà des mots ? C'est toute la question qui entoure ce sommet voulu par le Qatar, qui a promis de ne pas laisser impunis les attaques sans précédent menées par Israël. Ce sera une réponse collective. Dans le cadre légal, précisent les autorités, il faut tracer des lignes rouges face à ce qui est perçu comme un risque de chaos, car si Donald Trump a promis à Doha qu'il n'y aurait plus de telles frappes sur son sol, Benjamin Netanyahou s'est empressé de dire que les dirigeants du Hamas ne seraient en sécurité nulle part. Tous redoutent donc de ne plus être à l'abri d'une attaque à leur tour et s'interrogent sur la solidité du parapluie américain. Mais ils n'ont guère d'alternative pour leur défense. L'exercice est donc donc délicat. Il ne faudrait pas froisser Donald Trump qui continue à soutenir Benjamin Netanyahou. Les dirigeants de la région vont donc s'employer à dénoncer avec vigueur l'attaque israélienne. Mais ils doivent aussi convaincre Donald Trump de contenir l'appétit de guerre du premier ministre israélien, car c'est bien Washington et non Doha qui détient la clé. Doha, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Et sur le même thème, 5 jours après les frappes israéliennes au Qatar, le secrétaire d'État américain Marco Rubio entame aujourd'hui une visite en Israël. Les États-Unis n'ont pas apprécié ces frappes au Qatar, mais Marco Rubio vient surtout réaffirmer son soutien à Israël dans la guerre qu'il mène contre le Hamas. Au Népal, la nouvelle première ministre Sushila Karki s'engage ce dimanche à répondre aux revendications des manifestants qui réclament la fin de la corruption au Népal. En début de semaine, les émeutes ont poussé son prédécesseur à la démission et le dernier bilan de cette répression à ce mouvement de colère, il est désormais de 72 morts.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Meeting du Rassemblement National cet après-midi à Bordeaux, présenté comme la rentrée politique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. La démission de François Bayrou, puis la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon ont un peu changé l'ordre du jour. Il devait surtout être question des municipales de l'an prochain, mais finalement, compte tenu de l'actualité, le RN va surtout s'en prendre à l'exécutif. Bonjour Lise Roosevelt.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bordeaux. Marine Le Pen et Jordan Bardella vont donc décliner aujourd'hui leur nouveau slogan, la rupture ou la censure.
Oui, c'est un peu le hit de ces derniers jours au Rassemblement National pour mettre la pression sur le Premier ministre et par ricochet sur Emmanuel Macron, avec toujours un objectif, obtenir une dissolution. Marine Le Pen parie sur une chute rapide de Sébastien Lecornu et affiche un visage plus offensif. Le prix de la non-censure sera élevé, de simples symboles comme les jours fériés ne suffiront pas. S'attaquer au coût de l'immigration, ça, ce serait une vraie victoire politique, glisse l'entourage de la patronne. Marine Le Pen et Jordan Bardella attendent toujours la date de leur rendez-vous à Matignon, mais ils s'y rendront avec en tête les choix faits sur le budget, évidemment, mais aussi sur la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, une marotte du Rassemblement National. Le RN qui jongle donc toujours entre appel au dégagisme pour flatter ses électeurs et image d'un parti responsable, constructif, mais sans faire mine d'y croire. Sébastien Lecornu, c'est du passé, sourit déjà un stratège.
Et près de 350 personnes se sont rassemblées ce dimanche, place de la Bourse à Bordeaux, pour protester contre la tenue du meeting de rentrée du Rassemblement National. C'était Lise Roosevelt avec les moyens techniques de Benjamin Reyes. Et à gauche, les socialistes cherchent toujours leur stratégie face au projet, face au compromis que serait prêt à faire Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a déjà enterré le conclave sur les retraites, oublié également les deux jours férié que François Bayrou voulait supprimer, des concessions qui semblaient déjà acquises. Laurence Perron, il faudra bien plus pour les socialistes pour qu'ils se rapprochent d'un futur gouvernement.
Hier, face aux partenaires de la gauche, le patron du PS a été chahuté pour avoir dit qu'il ne souhaitait pas la dissolution. Mais dans le brouhaha, Olivier Faure a aussi clairement affirmé qu'elle serait inévitable sans inflexion radicale du budget. Le compte n'y est pas, assurent même les socialistes les plus conciliants. La base de la discussion, ce sont les mesures de leur contre-budget. Une réduction de la dette moitié moins ambitieuse que la trajectoire Bayrou, l'augmentation significative des bas salaires et surtout la contribution des plus hauts revenus à l'effort de redressement des finances publiques, la taxe Zuckmann. Il y a aussi la mobilisation sociale du 18 et les injonctions des écologistes, des communistes et des insoumis à ne rien céder. Le PS n'est pas mécontent d'apparaître au centre du jeu, mais il sait que sa situation électorale est précaire. Pas question d'aller à Canossa, confie un cadre du parti, s'agenouiller devant un ennemi dont les jours, vu le rapport de force à l'Assemblée nationale, sont nécessairement comptés.
Laurence Perron. Et quand il n'est pas sur le terrain, Sébastien Lecornu consulte tous azimuts pour bâtir un gouvernement en consultation politique et syndicale. Il a reçu la CFDT il y a quelques jours. Et pour la première fois depuis 2 ans, les centrales syndicales lanceront une mobilisation unitaire. Ce sera jeudi prochain, suivi une semaine plus tard par les agriculteurs qui, à leur tour, veulent se rappeler au bon souvenir de l'exécutif. La FNSEA appelle à une journée d'action. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Journée d'action donc le 25, ce sera autour des questions d'échanges internationaux des produits agricoles.
Oui, mobilisation, effectivement, contre, je cite, le Mercosur, les taxes Trump et le flot d'importations qui ne respectent pas les normes françaises. Des agriculteurs qui disent avoir encore en travers de la gorge, hein, les annonces d'Ursula von der Leyen il y a 10 jours, validant l'accord commercial européen avec 4 pays sud-américains. On va importer plus de volailles chlorées et de viande bovine aux hormones, alors que par ailleurs, les œufs ukrainiens produits de manière plus industrielle déferlent sur le marché français et à bas prix, explique ce dimanche un porte-parole de la FNSEA. On va se réveiller dans 20 ans, poursuit-il, et on ne produira presque plus rien chez nous. Pourtant, ce même porte-parole le concède. Le syndicat et une partie de la profession ont obtenu dans leur bras de fer sur les réglementations environnementales la quasi-totalité de ce qu'ils réclamaient avec la loi Duplomb adoptée il y a quelques mois, mais dont ils attendent les décrets d'application. Une journée, celle du 25, donc, pour envoyer un signal au tout nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, tout en évitant surtout de se mélanger aux autres colère de ce mois de septembre.
Claire Chaudière, et dans cette page sociale, j'ajoute les inquiétudes des patrons français dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, refuse toute hausse d'impôts et il menace d'une grande mobilisation si le prochain gouvernement validait les propositions des socialistes notamment. Les 5 adolescents qui étaient en garde à vue après la violente agression filmée d'un policier jeudi à Tourcoing, ces 5 jeunes ont été mis en examen ce matin. 2 font l'objet d'une incarcération provisoire, 2 sont sous un strict contrôle judiciaire et le 5e va faire l'objet d'un éloignement en Loire-Atlantique. Attention, si vous prenez le train du côté de Bordeaux jusqu'à Toulouse et Marseille, le trafic est perturbé depuis un incendie ce matin sur une voie ferrée au sud de Bordeaux. Aucun train en circulation donc entre Bordeaux et Langon. Un Ouigo et un Intercité à destination de Toulouse et Marseille, les 2 trains sont supprimés ce dimanche. Et puis entre Langon et Agen, le trafic sera perturbé jusqu'en milieu d'après-midi. Le sport avec le rendez-vous de la journée, c'est la Coupe du Monde. Parmi les grands rendez-vous, la Coupe du Monde féminine de rugby. Le Coq va-t-il conserver son avantage sur le trèfle dans 3 quarts d'heure à 14h? Donc les joueuses du 15 de France vont tenter de se qualifier pour le dernier carré. Les Bleus se préparent à affronter les Irlandaises avant une éventuelle demi contre les Anglaises. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Il y a déjà beaucoup de monde, hein. On entend derrière vous la foule, vous êtes en direct du Sandy Park d'Essex en Angleterre. Les Françaises sont favorites et en pleine confiance.
Oui, et si on entend la foule, hein, c'est parce que justement les Françaises et les Irlandaises viennent de faire leur apparition sur la pelouse du Sandy Park Stadium. Mais vous avez raison, les Françaises arrivent en quart de finale sans avoir perdu le moindre match. Elles sont même montées en puissance, hein, elles ont amélioré leur jeu au fil des 3 rencontres. Il n'y a pas de blessés non plus. C'est donc pour le moment un scénario sans accroc dans lequel tout se passe comme prévu. Même la pluie et les bourrasques de vent, Eric, annoncés depuis
entend.
Plusieurs jours. Ouais. On fait une apparition remarquée depuis une heure et depuis, bah, ça ne s'arrête plus, sans surprise non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de verts dans les tribunes du stade, autrement dit beaucoup de supporters irlandais. Et si le scénario continue de se dérouler, eh bien comme prévu, la France doit l'emporter tout à l'heure, ça c'est l'information. On le rappelle, hein, les Bleus n'ont plus perdu depuis 8 ans face aux Irlandaises. Mais attention, l'Irlande n'a rien à perdre aujourd'hui et on les dit particulièrement revanchards et remontés après le 40-0 reçu le week-end dernier contre la Nouvelle-Zélande. Méfiance.
Méfiance. On veillera à ça. Fanny Lechevestrier en direct du Sandy Park Stadium d'Exeter en Angleterre. Et je vous propose maintenant de défier la gravité, voir l'invisible ou bien encore explorer l'espace. Jusqu'au 17 septembre, le CNRS vous offre la possibilité de vous mettre le temps d'une journée dans la peau d'un chercheur. C'est la 5e édition des visites insolites que propose le CNRS qui ouvre ses 57 laboratoires un peu partout en France. Et dans un monde où la science est menacée, où les crédits sont coupés comme aux États-Unis, eh bien cette journée, Fabien Fourel, elle a aussi pour ambition de mieux comprendre l'importance de la recherche.
Comme dans ce laboratoire de la région Rhône-Alpes où vous pourrez
passer 24 heures au sommet du Puy-de-Dôme où on a un laboratoire d'observation.
Sébastien Bution travaille pour le CNRS près de Lyon.
C'est non seulement voir le travail des scientifiques, c'est aussi vivre leur vie.
Pour obtenir l'une des 900 places, il faut remporter un concours avec des questions. Par exemple, quel autre nom porte la drosophile ? Quelle est la définition d'une exoplanète ?
Vous avez les réponses soit sur le site internet du laboratoire, soit avec une petite recherche Google, soit vous avez déjà les connaissances.
Pauline Verlac est coordinatrice nationale de l'opération. Elle espère, avec ses immersions, lutter contre les fake news.
Dans nos opérations même de médiation scientifique au contact du grand public, c'est régulièrement que les gens nous approchent pour nous poser des questions sur la dernière théorie complotiste qu'ils ont pu voir sur Internet. Donc c'est aussi l'occasion finalement de faire du fact-checking en direct. Les gens osent et au moins ils ont les réponses qu'ils et elles cherchent.
Pas de diplôme nécessaire, juste de la curiosité.
On prête les blouses, on prête les masques, les gants s'il faut, on prête les combinaisons de plongée, on prête tout.
Mais attention, les places sont chères. L'an dernier, 3400 candidatures pour 844 heureux élus.
Voilà, vous avez donc jusqu'au 17 septembre, c'est-à-dire mercredi le matin à 10h, pour vous inscrire en répondant à un quiz. Il est sur le site internet du CNRS. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le soleil va briller encore cet après-midi, des Pyrénées jusqu'à la Corse.
Oui, en passant par les côtes méditerranéennes et la région Rhône-Alpes, un temps sec et ensoleillé avec encore du vent près des côtes et des températures estivales, on peut le dire, puisqu'on attend 30 degrés à Perpignan, 29 à Ajaccio, 28 à Nîmes. Pour Marseille, ce sera 27 degrés et 26 à Biarritz.
Oui, mais des températures moins chaudes hein, pour le reste du pays.
Ouais, avec une moyenne qui sera même tout juste de saison, 19 à 22 degrés de Rouen à La Rochelle, avec un ciel qui va rester bien gris tout au long de l'après-midi. On aura peut-être quelques éclaircies sur le flanc est qui vont réussir à se frayer un passage, mais pour les autres, ce sera couvert et faiblement pluvieux avec de bonnes rafales de vent près des côtes de la Manche.
Merci Céline Dacosta.